France Musique. Le Bloomsbury Group comme un goût d'excentricité. Il changeait de lit comme on joue aux chaises musicales. C'était là, sans aucun doute, une expression de cette franchise qu'ils tenaient pour devoir social, en réaction au victorianisme de leurs parents. Ainsi, l'écrivain et esthète britannique Harold Acton évoque-t-il le Bloomsbury Group, avec lequel il se lie lors de ses années londoniennes. Groupe constitué essentiellement de personnalités issues de la bonne société, plutôt upper middle class, souvent apparentées à l'aristocratie, dont la plupart n'ont pas besoin de travailler et vont consacrer leur vie à l'art ou à la réflexion. Sur fond de grande liberté sexuelle entre eux, le Bloomsbury Group est cependant souvent critiqué pour son élitisme social, un certain snobisme intellectuel couronné d'entre-soi, ce qui permet à Dorothy Parker de résumer ce groupe d'excentriques en la formule « Ils habitent en carré, peignent en cercle et aiment en triangle ». Commence en 1904, quand les enfants de Sir Leslie Stephen, éminent critique littéraire, auteur du Dictionary of National Biography, s'installent peu après son décès au 46 Gordon Square, dans le quartier de Bloomsbury. Bloomsbury est alors un quartier bohème, où vivent déjà beaucoup d'intellectuels. L'écrivain français Paul Morand le décrit d'ailleurs dans son Londres, paru en 1933, comme le centre de la vie intellectuelle. Où chaque maison contient un as des sciences, des lettres et des arts, ou un groupe d'étudiants logeant en pension, ou une librairie en sciences occultes. Les enfants Stephen y mènent dès lors une vie extrêmement libre, comme un clan familial très soudé, entouré de quelques amis. C'est autour de Toby, le fils aîné, que se rassemble un premier cercle constitué de ses amis de Cambridge. Ils s'appellent Leighton Strachey, Leonard Woolfe, Saxon Sidney Turner ou encore Clive Bell. En 1902, Toby rejoint à Cambridge la très sélective Société des Apôtres, qui va jouer un rôle essentiel dans les débuts de Bloomsbury. Appelé également le Cambridge Conversazione Society, ce club très secret est fondé en 1820 par George Tomlinson, futur évêque de Gibraltar. Il est le premier apôtre et fidèle à ce surnom. Le club n'aura jamais plus de 12 membres à la fois. Chaque semaine, les membres se réunissent pour manger des sardines sur du pain grillé et discuter d'un essai lu par l'un des apôtres. Comme la conquête normande a-t-elle été bénéfique à l'Angleterre en 1822 ? Mais peu à peu, les questions de politique et de religion cèdent la place à la philosophie et à l'art, comme « devrions-nous être hermaphrodites ?» ou « devons-nous porter des hautes formes ?» Certains écrits ont un réel impact sur les cercles universitaires, notamment « Is there anything to discuss ?» « Y a-t-il quelque chose à discuter ?» de Frank Ramsay, posé en 1925. Se considérant comme l'aristocratie intellectuelle de Cambridge, ou selon les mots de Strachey, les terriblement intelligents, les artistes, les dépassés, ne sont toutefois pas tous en accord. Et Strachey lui-même, dégingandé, aux cheveux jaunes et à la voix aiguë, est jeté dans une fontaine par des athlètes de Trinity College pendant son séjour à Cambridge. Les premiers familiers du Gordon Square sont donc les amis de Toby. Aussi, quand Toby décède soudainement en 1906, la solidité du noyau se renforce. Vanessa, sœur aînée de Toby, se marie avec Clive Bell, avant de s'installer pour le reste de sa vie avec le peintre Duncan Grant, cousin de Lytton Strachey. Dans le cadre d'une relation très ouverte, ce dernier peut dès lors successivement être l'amant de l'économiste John Maynard Keynes ou de l'écrivain David Garnett. De son côté, Virginia, la sœur cadette de Toby, épouse Leonard Wolfe. Le noyau du groupe constitue alors une grande famille, parfois proche d'une secte. Ses membres restent en effet assez rétifs à l'égard d'autres excentriques, et c'est Clive Bell, sociable et mondain, qui assure le lien avec le monde extérieur. L'ambiance au 46 Gordon Square n'est pas toujours simple. Virginia Woolf le compare même à une cage aux lions. Gordon Square ne ressemble à rien tant qu'à la cage aux lions du zoo. Chacun passe de cage en cage, tous les animaux sont dangereux, soupçonneux et pleins de fascination et de mystère. Je me sens parfois trop timide pour entrer au 46 et me traîne sur le trottoir en regardant par les fenêtres. C'est curieusement, ou naturellement, par une supercherie que le groupe se fait connaître du grand public en 1910, grâce au canular du Dreadnought. Le 7 octobre 1910, le commandant en chef, Sir William May, reçoit un télégramme envoyé depuis un bureau de poste de la St. James Street à Londres. Prince McAllen d'Abyssinie, avec suite, arrive à Weymouth. Désire voir Dreadnought. Désolé, improviste. Oubliez télégraphier avant. Interprète accompagne. Le message est signé Sir Charles Hardinge, sous-secrétaire du Bureau des Affaires étrangères. L'Abyssinie est l'ancien nom de l'Éthiopie. À bord du Dreadnought, c'est le branle-bas de combat. Dans moins d'une heure, un chef d'État va débarquer sur le bateau avec sa garde rapprochée et rien n'est prêt. Dans la précipitation, les membres de l'équipage ne trouvent pas le drapeau de l'Abyssinie et lèvent celui de Zanzibar. Le cuisinier se met au fourneau et un groupe d'orchestre répète même l'hymne national pour l'arrivée de la délégation. Sir William May ajuste son uniforme et attend le prince McAllen d'Abyssinie et ses amis sur la plateforme. Virginia Woolf et Duncan Grant ont gagné leur pari. Ils sont officiellement reçus à bord du HMS Dreadnought, bâtiment de la Navy. Exquise excentricité. Le Bloomsbury Group commence néanmoins à compter dans le paysage artistique britannique grâce à deux expositions organisées par Roger Fry sur la peinture post-impressionniste aux Grafton Galleries à Londres en 1910 et 1912. Mais aussi par la création des ateliers Omega, une coopérative qui mêle les beaux-arts, de la peinture et la sculpture, aux arts décoratifs, le mobilier et les objets. Ils réalisent ainsi des meubles, des tapisseries, des abat-jours. c'est surtout la céramique qui tient une place importante dans les ateliers Omega. Parmi ses membres, Duncan Grant produit une céramique colorée et narrative, largement influencée par celle des fauves français. Et Roger Fry crée quant à lui une ligne de vaisselle aux formes simples et épurées. S'inspirant à la fois de la céramique primitive orientale, qu'il découvre lors d'une exposition en 1910, mais aussi de l'artisanat Quaker, dont l'austérité a bercé son enfance. C'est donc à Charleston, leur nouveau temple de la liberté de penser, de peindre et d'aimer, que le groupe va désormais s'installer et créer. Vanessa et son neveu Quentin Bell, Duncan Grant et David Garnett décident en effet de s'installer en 1916 dans une petite ferme du Sussex, à Charleston plus exactement. Après la guerre, les Wolfe puis les Kings s'établissent à proximité. Charleston devient dès lors un lieu habité comme une scène de théâtre, une grande page blanche à laquelle artistes de passage ou en résidence donneront des couleurs insolites. Ce qui était perçu comme une bande d'excentriques était un véritable essaim d'idées nouvelles, un vivier avant-gardiste. So British.
À réécouter sur francemusique.fr.